Vous écoutez RTL.
11h04 sur RTL. Tout de suite, on retrouve Stéphane Bern à la bonne heure.
Absolument, merci beaucoup Adeline Courson. On vous retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais nous, nous sommes dans à la bonne heure en direct et en public avec Olivier de Kersauzon, notre invité. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous.
Bonjour Stéphane.
Je vais vous présenter dans un instant. D'abord, je présente mes petits camarades. Dans votre vie de marin et d'homme, vous avez croisé quelques héros, peut-être aussi quelques pirates, c'est-à-dire des salauds. Les bateaux sont aujourd'hui équipés de matériel électronique très sophistiqué, mais il leur manque encore le blaco. Le blaco, c'est ce qui permet de distinguer très nettement le héros du salaud, Stéphane Blaco.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Cette semaine, c'est donc un héros, et mon héros de la semaine est un millionnaire australien qui prétend que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors vous allez dire, bah, si l'argent ne fait pas le bonheur,
rends-le
abruti. Ouais. Et bah, c'est justement ce qu'il a fait. Ah, il a laissé tomber tous ses millions pour s'installer sur une île déserte au large de l'Australie. S'il y a des millionnaires dans ce studio que ça intéresse, bah voilà, on en parle à 11h25.
En fait, c'est une île privée. Hein, faut le
il
savoir.
L'a acheté, l'île avec ses millions.
Non, même pas, il l'a loué.
Pour
50 ans.
Ah, très bien. Il attendait depuis longtemps la présence d'un marin pour montrer sa marque du maillot. Régis Maillot nous la montrera juste après-midi.
Bonjour à tous.
Bonjour Régis.
Très bien, très très bien. Irmat, c'est l'heure.
Oui, assez après.
Ah bah, c'est déjà l'heure là.
Bonjour vos vaches et cochons, l'amour est dans le pré et revenu à la télévision pour la plus grande joie. Éric Dussard.
Bonjour, bonjour à tous, et on se régale dans tous les sens du terme devant cette émission, puisqu'on a une célibataire qui n'a rien trouvé de mieux que de cuisiner à peu près une centaine de plats à l'homme qu'elle voulait draguer. Elle s'est dit voilà, je vais la voir comme ça. Et puis on se régalera également
ça s'appelle Landru le gars.
Je crois. Oui. On se régalera aussi avec quelques extraits d'une émission qui est passée sur TMC hier soir qui s'appelle Quotidien, où il y avait un certain Stéphane Bern qui était en grande forme.
Ah oui ?
Oui, tant mieux pour nous. On écoutera ça tout à l'heure.
Vous présenterez les meilleurs morceaux, c'est ça ?
C'est ça, je vais vous découper.
Et okay. Voilà, il est content.
Vous n'avez que ça à faire que de parler de moi. Bref, on terminera avec un de vos exercices préférés, vous qui adorez la musique. Ah oui.
J'adore
le
ça.
Quiz...
Ah, ça
le quiz musical de Patrice Carmouze.
Okay. Là, vous pourrez partir. On mettra Blaco dans votre équipe.
Consacré aux chansons qui parlent des villes et des régions françaises. À la clé, un superbe cadeau. C'est une escapade de 3 jours à l'hôtel 4 étoiles Dolce Frega de Provence à Bandol. Allez voir sur dolcefrega.fr.
Si
et puis à 11h40, nous parlerons du périple qui conduisit au début du siècle dernier Jack London de l'Amérique vers les îles du Pacifique Sud. Nous en parlerons avec un spécialiste de Jack London tout à l'heure, le co-commissaire de l'exposition.
Le coco.
Qui est actuellement, enfin qui se déroule à Marseille. Voilà, je vous présente notre invité. Menhir breton en granit dur qui a droit au doux titre d'amiral de la flotte, non parce qu'il en abuse dans son verre, mais parce qu'il a sillonné toutes les mers du globe, accumulant records océaniques, trophées Jules Verne et autres tours du monde en solitaire. Il est aussi vicomte, comme Chateaubriand, et portant lui autant l'amour de la mer que la passion des lettres, l'art de tenir la barre ou de manier la plume. Qui aurait pu imaginer qu'il fût aussi un poète lyrique lorsqu'il chante son plaisir de naviguer, son émerveillement devant les beautés muettes de la nature, que ce soit en Bretagne ou en Polynésie, lui qui peint le sillage blanc sur le bleu des mers. À la recherche éperdue d'un bonheur fugace de quelques jours en mer, il sait que rien ne dure et connaît mieux que quiconque la fragilité de l'existence qu'il traverse sans aucune nostalgie. Son succès, pourtant, ne se dément pas. Et les éditions du Cherche Midi rééditent son dernier livre, Promenades en bord de mer et étonnements heureux, déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires. Dans le même temps, ce conteur né nous fait voyager jusqu'en Armorique avec un album qui chante sa gloire, ses beautés ensorcelantes et ses sortilèges, entouré d'artistes comme Alan Stivell, Laurent Voulzy, Dan Arbraz, Miossec, Renan Luce, Didier Barbelivien, Triane, Raphaël, mais aussi Cécile Corbel ou Jane Birkin, sans oublier le célèbre Bagad de Lynn Biway. Si j'osais, je crierais avec lui Brézéo Mabro, la Bretagne est mon pays, avec nous ce matin une voix d'RTL que vous connaissez bien et que vous aimez, j'en suis sûr, comme nous, Olivier de Kersauzon. Ah Eh oui, amitié à tous nos amis bretons qui nous écoutent. Et on va faire une interview.
C'est bien la première fois que vous dites ça de l'année. Hein.
Non, mais c'est pas ce qu'il dit d'habitude.
Et le village préféré, je l'ai fait d'où de Rochefort en Terre, monsieur.
Bah, je sais bien, je vous ai regardé.
Tous les chemins me ramènent.
Et Ploumanac, hein, ils nous ont bien payé il y a deux ans.
Mais arrêtez, ils m'ont pas payé.
Et depuis Rochefort en Terre, eh ben, ils ont un déficit budgétaire.
Mais non, arrêtez.
Mais ils ont une belle statue de Stéphane Bern.
Oui, exactement. Si vous le croyez, bah, pensez ce que vous voulez. On va vérifier les mots et des expressions en breton avec l'amiral dans un instant.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest?
La radio, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Georges Reyes.
You say que Jane Birkin, ça.
Exactement, extrait de cet album qui s'appelle La Bretagne.
Il ne peut jamais jouer, le pauvre, alors il est seul.
Magnifique chanson.
Alors,
c'est
mon interview bretonne. Alors, on va vérifier, cher Olivier, avec vous, quelques mots et expressions bretons dont on n'est pas tout à fait sûr.
Ouais. Moi non plus.
On les trouve, mais on n'est pas sûr que ça soit vraiment breton. Est-ce que, quand vous écrivez, vous mettez beaucoup de choses à la jaille?
Non.
Non, c'est la poubelle, hein, la jaille, c'est ça. Vous fréquentez quelques chouquins?
Je ne sais pas ce que c'est.
Des oiseaux?
Non.
On ne sait pas ce que c'est non plus.
Non.
Est-ce que vous dites souvent, t'es gourzoute ou quoi?
Mais attendez, je suis breton, je n'ai jamais entendu ça de ma vie.
Gourzoute, c'est comme idiot ou quoi?
Non, mais t'as trouvé ça où?
Justement,
c'est des trucs qu'on trouve, mais on n'est pas très sûr que ça soit vrai.
Wikipédia, mais Wikipédia.
Sur Internet, vous trouvez des trucs, mais gourzoute, il faut vérifier.
Non, c'est les bretons vus par quelqu'un de Strasbourg.
Il s'est planté avec l'interview afghane.
J'aimerais que vous disiez rien sur l'Alsace, parce que le prochain village, c'est en Alsace.
Mais j'adore.
Vous connaissez déjà le vainqueur?
Mais l'Alsace de cette année,
c'est fait. Encore, donc c'est pour ça que tu es gentil.
Mais arrêtez avec cette légende.
C'est pas une légende.
Bretonne.
C'est pas une légende. Non, on me l'a dit.
Olivier, d'accord.
Moi, quand je suis nu, dit tu vas voir Bern, putain, t'es.
Il roule sur l'or.
Mais écoute, tu sais comment il nage, Bern, il nage comme ça.
Donc on coule. Je sais pas, un marin que je vais expliquer ça si on fait ça.
On l'appelle Omar, il a de belles pinces.
Bon, c'est bon, là, c'est bon.
Laissez-le finir son test.
C'est ça, grignouse dure en Bretagne.
N'importe quoi, mais attends.
C'est dingue.
Mais c'est même pas la peine. Je ne sais pas dans quelle poubelle t'as trouvé ça. Attends.
Wikipédia.
C'est le mec bourré en fin de soirée qui parle comme ça.
Non, c'est même pas Wikipédia. Il y a des sites qui vous disent qu'il y a des mots bretons, mais moi, ça m'intéressait de savoir aussi si c'était vrai ou pas.
On vérifie. Ça grignouse dure.
Non, moi, je suis la génération qui ne le parle pas parce que. Mais ma mère le parlait à cause de la guerre, comme elle l'avait appris sur le tas pour soigner les gens autour de la maison et tout. Et nous, on ne l'a pas appris parce que c'était interdit à l'époque.
C'était avant les écoles d'Iwan qui
enseignent bien après. Moi, ça ne m'a pas trop manqué. Bon, c'est tout. Oui. On a appris l'anglais avant, plutôt.
Et le gaélique, toutes les langues, parce qu'il y a toutes les langues, évidemment.
L'anglais, c'est sympa de le parler, mais le problème de tous les régionalistes, le régionalisme, c'est formidable lorsque c'est fait pour la région, pour se réjouir d'habiter là, pour sa culture et tout. Mais souvent, le régionalisme, c'est souvent fait par des gens pour séparer, pour
se renfermer.
C'est tout à fait ennuyeux et vulgaire. Donc, on a toujours été pas très à l'aise avec des idées de régionalisme. C'est ça.
Mais je l'ai bien prononcé, on dit la Bretagne est mon pays, Braise et Mabro.
Oui, Braise et Mabro.
Ouais, bro. C'est pas mal, ma bro.
Bro.
Voilà.
Bon,
vous embêtez pas non plus avec mes expressions bretonnes.
Il dit que c'est ma le mot important, hein, dans ma bro. Hein, c'est ça?
Ma. Eh bien, on va parler maintenant de la réédition. Pour l'été, c'est formidable. Je vous le recommande, ce livre, Promenades en bord de mer et étonnement heureux au Cherche Midi. On va en parler dans un instant.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Tu la voyais pas comme ça, ta vie. Pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi, j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça l'histoire. Toi t'étais tempête et rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal. Cassé tes envies rendues banales. T'es moche en moustache, en laide sandale. Tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça, frérot.
Et voilà, c'est beau, hein.
C'est vachement bien.
Alors, Patrice, on a la réponse, on a dit non, qui chante?
Je dois demander à Stéphane.
Moi, j'ai la.
Vous avez l'album.
C'est la jolie reprise d'Alain Souchon.
Oui.
Exactement.
Et là, il s'agit de. Non. C'est Boulevard Désert, oui, sur le champ de Bruxelles. D'accord.
Exactement, Boulevard Désert.
Bah, c'est vachement bien. Hein. Ouais.
Très bien. Eh bien, nous sommes avec Olivier de Kersauzon. Vous êtes victime de votre succès parce que le Cherche Midi republie ce qui est extrêmement rare, Promenades en bord de mer et Étonnement heureux, dont on avait eu le plaisir de parler ici même il y a quelques temps. Il faut dire que vous avez déjà vendu plus de 100 000 exemplaires. Vous êtes sensible à ce succès public?
Oui, enfin oui. Oui, je suis content, quoi.
Oui.
Je vais pas faire la gueule. Non, c'est bien. C'est sympa, c'est parce que c'est un livre assez léger, quoi. C'est assez disparate.
C'est des petites notations, en fait.
Non, je parle que de choses qui m'ont plu, qui m'ont séduit ou que j'ai aimé. Donc, quand si les gens aiment bien ce que tu as aimé, c'est assez agréable, en fait.
Oui.
C'est,
de partager avec les autres.
Oui, c'est pas une insulte, voilà. Ça,
vous l'avez pas fait pour vous, vous l'avez fait aussi pour partager avec le public.
Oui, en plus. Et c'est très vrai, je ne sais pas qui disait ça, mais j'avais trouvé ça très intelligent, c'est pour ça que je le répète avec avidité. Un livre n'existe que quand il est lu. Et je trouve c'est formidable que ça ait été lu, voilà. Il y a 100 000 personnes qui ont lu, peut-être un peu lu, ça c'est formidable.
100 000 qui l'ont acheté, donc plus qu'ils l'ont lu, en fait, quand on se le passe.
Et ça, c'est un côté vraiment sympa. Quoi.
Et en plus, ce qui est formidable, c'est qu'on peut l'ouvrir à n'importe quelle page.
Oui.
Il n'y a pas de chronologie, en fait. On peut. Parfois, c'est une page, parfois, c'est quelques mots. On picore. C'est à la fois une promenade, à la fois dans les ports, dans la vie. C'est vos réflexions, souvent, je dois dire, très poétiques. La mer, c'est le dernier endroit où l'imprévu revêt encore une importance.
Ah oui, non mais c'est un monde extraordinaire. Moi, je pourrais en parler pendant 20 ans. C'est que ce monde m'a toujours enchanté et continue, en dépit des années, à vraiment m'enchanter. C'est que je passe sur mer, à côté de la mer, à regarder la mer, des moments que moi, je perçois comme merveilleux. Donc c'est parce que j'y suis très sensible.
Mais vous aimez toutes les mers, parce que parfois il est arrivé avec des Bretons d'arriver au bord de la Méditerranée et ils vous regardent comme vous aimiez une mer,
une flaque.
Justement, c'est vrai que c'est pas non plus très grand, mais il y a des couleurs, il y a des bleus de Méditerranée absolument délicieux. Et puis c'est le centre d'une civilisation. Cette mer va lécher les côtes de l'Italie, les côtes du Maghreb. C'est une mer extraordienre. Comme toutes les mers sont bien. Il n'y a pas de deuxième catégorie de mer ou troisième catégorie, puisqu'il y a quand même
c'est la mer noire, franchement.
C'est un plaisir.
Alors, franchement, j'y suis allé. Elle mérite son nom de noir. Hein.
Non, mais si, c'est bien. Moi, j'aime bien.
Vous aimez même la mer qui vous effraie?
Elle vous avait jamais fait peur, la mer?
Si, il y a les jours où je faisais moins le malin dans votre studio, mais ça durait pas très longtemps. Parce que,
quand vous dites qu'elle est imprévue, c'est ça.
Ce qui est sympa, c'est dans ce que peut être la mer dans ces périodes les plus violentes, c'est le côté... c'est massif, quoi. C'est vraiment violent. Et ça, c'est vachement bien, que ça ramène l'homme... Enfin, celui qui y est, moi en l'occurrence, puisque c'est moi qui étais, à se dire, attends, c'est pas le poids, quoi.
C'est grand chose, l'allure.
C'est assez bien aussi, parce que les expressions maritimes vieilles, comme le bateau était bon, l'équipage était digne, et la mer l'a permis, quoi. Il y a quand même toujours cette possibilité que la mer permette pas, permettait.
On reste humble face aux éléments.
C'est pas le goût de l'humilité, c'est le bon sens.
Oui. C'est la survie, d'ailleurs. C'est l'esprit de survie.
C'est comme avec les animaux sauvages, en fait. Hein.
Oui.
C'est pareil. Oui. Prennent le dessus, c'est comme avec les animaux sauvages. C'est eux qui décident.
Ouais.
Mais il y a une chose, par exemple, vous racontez dans le livre, par exemple, vous apercevez, je crois que vous êtes dans le port de Papeete où sont relégués comme ça les vieux bateaux, et vous voyez celui de Florence Artaud dont vous avez été très proche. Alors on se dit que vous allez pester contre ce pauvre bateau qui est comme ça à l'abandon, et pas du tout. Vous n'avez aucune nostalgie pour ce qui a été.
Ouais, je pense que ce qui a été, c'est tout.
Ouais.
Je suis incapable de... Moi, je vis dans le vrai présent. Oui, je vis dans le vrai présent. J'ai vu le bateau, c'est ça. Mais c'est très symbolique, que ce bateau soit amarré dans un coin, qu'il n'y ait plus rien, qu'il navigue plus, qu'il soit à moitié délabré et tout. C'est aussi la signification, s'il en était besoin, d'expliquer que c'est over.
C'est fini.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Olivier de Kersauzon, Promenade en bord de mer et Étonnement heureux au Cherche Midi. Vous définiriez comme un héros ou comme un salaud?
Ah, comme un salaud pur parfois. Non, pas
seulement
un héros
avec
non
certaines
plus,
dames.
Un gentil garçon un peu brutal.
Voilà, pas mal. Ouais, je suis assez d'accord.
J'ai pas les vertus de l'hôtesse d'accueil. Voilà. Et ça, j'assume.
Ou alors l'hôtesse de mauvais poil. Voilà.
Eh bien, on va retrouver Stéphane Blanco, les héros et les salauds de la semaine.
Les héros et les salauds de Blanco.
Alors, mon héros de la semaine, il s'appelle David Glashine. Et alors, jusqu'à l'âge de 45 ans, c'était un millionnaire heureux. En bon trader sans scrupules, il avait quand même amassé une fortune de 30 millions de dollars. Et puis, sa vie a déraillé. C'était au moment du crash boursier de 87. En une seule journée, David a perdu un tiers de sa fortune. Donc, je vous laisse faire le calcul. Il lui restait quand même 20 millions de dollars. Donc, on va dire, 20 millions de dollars, on n'a pas le droit de se plaindre. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Mais le problème, c'est que la femme de David n'était pas du tout d'accord avec ce point de vue. Non, non, non. Apparemment, à 30 millions de dollars, elle arrivait à le supporter. Mais à 20 millions de dollars, elle ne voyait plus que ses défauts. Résultat, elle a demandé le divorce. Bah oui, il faut la comprendre.
Et il y en est, elle est partie avec ce qui restait.
Avec 10 millions de dollars.
Moi, je voulais justifier sa position en disant, bah, faut la comprendre. Voilà. Imaginez une femme qui épouse un homme avec un sexe de 30 cm. Bon, puis cet homme, dans un accident de jardinage malheureux, s'ampute d'un tiers de son sexe en taillant ses rosiers. On comprend que la femme a des raisons de se plaindre. Et bien, c'est ce qu'elle a fait. Elle a demandé le divorce. Alors, résultat, à cause du divorce, ben, David a encore perdu la moitié de la fortune.
Évidemment.
Oui, ouais. Donc, si vous suivez bien, là, il en est à 10 millions de dollars. Et on n'arrive toujours pas à le plaindre. Et pourtant, c'est là que la vie de David a basculé. Il était toujours obsédé par l'argent. Du coup, il s'est lancé dans l'hôtellerie de luxe. Et pour ça, il a donc loué une plage paradisiaque sur une île sauvage au large de l'Australie. Et l'idée, bien sûr, c'était de se faire des couilles en or, golden bollocks, comme on dit en australien, en construisant un club de vacances avec une bonne petite soixantaine de bungalows. Oui, mais voilà, c'est là que la vie est belle, c'est là que David devient un héros. En arrivant sur cette plage, il a eu le coup de foudre et il s'est dit qu'il voulait vivre ici pour toujours. Du coup, certainement pas question de polluer l'endroit avec des couillons de touristes qui seraient venus défiler. Tant pis pour les millions, David a choisi de vivre en Robinson. Et depuis 20 ans, il n'a pas quitté cette île paradisiaque. Il pêche des poissons, des coquillages, il cueille quelques fruits sauvages, cultive des légumes. Résultat, il a 74 ans. Et à défaut de péter dans la soie, ben, il pète la forme, David. La seule fois où il a appelé un médecin, c'est quand il s'est fait piquer par une araignée à pointe blanche. Alors, normalement, c'est pas mortel, ces araignées, mais là, son pied avait doublé de volume, il était devenu tout noir, donc il a quand même préféré consulter. Hein. Bah oui, c'est normal. Il faut dire que l'île est paradisiaque, mais elle est quand même infestée de sales bestioles. Alors, comme toujours au paradis, le plus dangereux, c'est quoi? Au paradis, les serpents.
Exactement.
En l'occurrence, là, ce sont des serpents taipans, parmi les plus venimeux au monde. 45 minutes d'atroces souffrances et la mort est inéluctable. Alors, son premier chien s'est fait piquer. Il l'a perdu. Donc il en a acheté un autre, enfin adopté un autre, qui lui s'est fait bouffer par un crocodile marin. Ah oui, parce que je vous avais pas dit.
C'est sympa cette île.
Il faut faire gaffe quand on se baigne, hein, parce que en plus des crocodiles, il y a aussi des requins.
Oui, en fait, je comprends qu'il n'y ait pas de bungalow, les gars voulaient pas venir.
Malgré tout.
C'est sympa les vacances.
Malgré
là-bas.
Tout, voilà, quand on lui fait ce genre de remarque en disant mais c'est sympa vos vacances, qu'est-ce que vous foutez là-bas? Alors lui, David, il a une réponse, il dit qu'il y a moins de méchanceté dans la cervelle des serpents et des crocodiles que dans celle des êtres humains.
Oh.
Et histoire de préciser un petit peu ce qu'il veut dire, il ajoute que l'avantage sur son île, c'est qu'il est à l'abri des attaques terroristes. Bah ouais, ça on peut pas dire le contraire. Donc David, lui, il est bien content de vivre à l'abri de la connerie humaine, mais il reconnaît quand même qu'il lui manque un peu de compagnie, notamment de compagnie féminine. Ouais. Alors, étant donné que ça fait 20 ans qu'il vit seul sur son île, autant vous dire qu'il est chaud, mais alors chaud comme la braise.
C'est vrai que les crocodiles se
défendent. La première qui dit oui, elle va prendre cher, je vous préviens.
Oh non.
Et comme je sais que de nombreuses femmes à la retraite écoutent RTL, eh ben, je me permets de faire passer le message. Si ça vous dit de finir votre vie sur une île paradisiaque en grimpant au 7e ciel tous les soirs, écrivez à RTL. On fera passer le message à David Glashine. On lui soumettra votre CV. Et sachez que s'il y a des personnes dans le public, des dames qui sont intéressées, Dominique peut-être, pour aller finir sa vie en Australie, le 7e ciel tous les soirs. Non, vous voulez pas non. Dominique. Bon, bah, j'aurais essayé en tout cas.
Merci Stéphane Blanco. Je pense qu'on grimpe aux arbres là-bas, pas pour. Surtout pour échapper aux bêtes.
Oui. On a une pensée pour vendredi.
Le petit vendredi.
Oui. Allez, on va retrouver l'amiral de Kersauzon dans un instant pour la suite de la bonne heure.
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
Qui sasse.
Alors, on a un certain nombre de questions à vérifier avec vous, Olivier de Kersauzon, et notamment... Vous parlez très bien de la Bretagne, vous êtes, mais vous êtes obligé de reconnaître que c'est plus la Bretagne de votre enfance. Notamment, même si vous n'êtes pas nostalgique, vous regrettez le moment où il n'y avait pas d'électricité, qu'on s'éclairait à la bougie.
J'aimais bien, mais je regrette pas. J'aimais bien. J'aimais bien le parce que l'absence de modernisme donne une idée d'éloignement plus fort. Et moi, j'ai toujours aimé la notion d'éloignement. J'aime pas la Je n'aime aucune forme de proximité, quelle qu'elle soit.
Et puis, vous êtes habitué à vivre sans confort, d'une certaine manière.
Ben, le confort, pour moi, il n'est pas là. C'est-à-dire que moi, je préfère dormir sur... Le confort commence à partir du moment où on a bouffé à peu près à sa faim et où il ne pleut pas là où on dort. C'est là que le confort commence. Donc, moi, je vis dans le confort.
C'est bien, je trouve que... oui, c'est bien.
Et je trouve que dans la notion de confort, il y a souvent un zeste de vulgarité et de mollesse que je n'aime pas obligatoirement ou que je ne trouve pas élégant. J'aime bien l'ascétisme, voilà. Et ça, c'est une forme d'ascétisme, ouais.
Et l'argent, quand vous le cherchez, c'est plutôt pour payer financer vos expéditions.
Non, mais c'est aussi un challenge, le challenge d'aujourd'hui, parce que le monde est devenu tel que...
Il tourne autour de ça.
Si vous ne vous battez pas pour l'argent, il faut le prendre. Si on a 30, on pourra toujours le donner à quelqu'un, ce n'est pas un problème. Donc,
ah oui, vous le prenez ça pour un challenge à chaque fois. Je vais essayer d'avoir la meilleure négo possible.
Oui, toujours. Ouais. Ah ouais, c'est vachement marrant, parce que les mecs, ils pensent qu'à ça. Ouais. Donc, ils commencent à te parler d'amitié et tout ça. Tu te vas, tu vas me dire quoi, là?
Ouais, c'est vrai, c'est fou, hein.
Donc, c'est vachement bien. Il y a un challenge. Après, tu peux redistribuer.
Vous avez déjà négocié votre entrée 2017-2018 sur RTL?
Tout à l'heure.
Là, ils écoutent, ils sont pas bien, d'ailleurs.
Je parle pas des choses qui vont fâcher. Non, je déconne. Mais non, c'est bien de négocier. C'est bien de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on ne les fait pas. Ouais. Voilà. C'est pas pour...
Vous savez que Georges Pernoud va quitter la présentation de Thalassa, le magazine de la mer de France 3, après plus de 35 ans de service. C'est vrai que ça aurait pu vous intéresser de reprendre la présentation de cette émission ou pas ?
Non.
Même s'ils ont beaucoup d'argent ?
Non. Moi, je suis à un âge où le temps est plus important que l'argent aussi.
Ouais.
Donc, je n'irai pas faire ça, non. Mais j'aimais bien Pernoud. Ouais. Il a fait une vraie œuvre. Il y a plein de documents qui auraient disparu si Thalassa n'avait pas existé, si c'était pas donné le mal de fédérer, rencontrer, faire savoir, je sais pas quoi. Et je trouve que cette vie de l'audiovisuel de Georges Pernoud, c'est une vie magnifique.
C'est une collection presque, hein, effectivement.
Non, il y a tellement eu de belles histoires, de beaux documents, d'émotions aussi. À l'époque, il s'occupait vraiment de la mer. Puis après, les années passant, comme tout, l'information est diffuse. Il y a tellement de télé, tellement d'images que c'est moins. À Tahiti, par exemple, ils ont un jour voulu changer l'heure de la diffusion de Thalassa. Ça a été le bordel dans tous les atolls. Les gens gueulaient, ils ne voulaient pas. Il fallait que Thalassa soit diffusée avant la nuit, tout le monde se lève à 4h du matin, donc il fallait que Thalassa soit diffusée à 6h30, 7h le soir.
Et l'émission va continuer à la rentrée avec une nouvelle présentatrice.
Maintenant c'est la grande maladie, ça. Ouais. Dès que on met une bonne femme partout. Moi, je vais me battre pour l'égalité bientôt, pour la parité.
Dans le studio, on est assez bien préservé.
Nous, à la radio, à la télé.
On est une zone de résistance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Mais il y a d'autres questions parce que non, c'est vrai que vous aviez joué Danton dans le film de Jean-Yann. Alors je ne sais pas si vous êtes révolutionnaire, mais vous dites vous-même que vous êtes moins révolté qu'indifférent.
Moi j'ai toujours été indifférent en fait. C'est ce qui vous fait haïr en fait. Les gens vous pardonnent la révolte parce qu'ils la trouvent romantique, et l'indifférence, ça les met mal à l'aise quand même. Et moi, j'ai toujours été indifférent. Au collège, j'étais indifférent au complet de ce qu'ils me racontaient en 9. J'en ai fait beaucoup à cause de ça. Ils me renvoyaient en général à l'époque des fraises, parce que là, ça commençait à y avoir de la chaleur dans les collèges, et ça bouge un peu trop. J'étais renvoyé. Le mois de mai, juin, je passais souvent chez moi. Ce qui était sympa.
Mais ce que je trouve, il y a quand même une contradiction. Vous passez pour un type rugueux, un peu abrupt, pas toujours diplomate. Et en réalité, quand on vous lit, on découvre un poète, quelqu'un qui est... Vous extasiez devant une fleur, devant la nature, vous êtes émerveillé, vous êtes en permanence étonné, jamais blasé, jamais...
Non, c'est parce que je ne sais pas gérer le contact humain. Le contact avec ce qui m'enchante, je sais le gérer. Quand les gens m'enchantent, j'arrive à être enchanté par eux. Mais quand ils ne m'enchantent pas, ils me font très vite chier, quoi.
Vous savez pas faire semblant.
Mais voilà, la frontière est pas large. Oui. Et c'est pas. Et quand je dis ils me font chier, c'est de ma faute, c'est pas de la leur. C'est moi qui va.
Vous intéressez pas.
C'est moi qui suis pas bon pour ça, quoi. Mais c'est vrai, je suis abrupt, et c'est vrai que vous parlez de sensibilité. Moi, je suis sensible à plein de choses. Et ma vie, mes journées. Moi, j'ai plein de bonheur parce que des choses auxquelles je suis attentif et qui pour moi sont des moments de pure réjouissance, oui. J'adore. Tu sais, un cri de Martinet dans un ciel de juin. Là, quand
une poursuite de Martinet, ouais, c'est vrai.
J'adore. C'est extraordinaire. T'as.
Stéphane, non, c'est les billets quand il est froid.
Ouais, c'est... Arrêtez. Oh.
Non, Stéphane, c'est le cri du billet de 500 francs.
Mais arrêtez. Mais,
tu sais, c'est vrai, il paye encore en francs. Vous avez raison.
Moi, c'est...
Oui, parce que il a commencé avec 500 francs, maintenant il est aux 500 ouais, euros.
Ah, le passage à l'euro, il l'a pas senti, lui.
Oui, oui.
Mais arrêtez.
Non, mais il a ramassé.
Vous voulez qu'on parle de vous, les uns les autres?
Ouais,
mais Dussart devant le bureau de Jack Expert, mais c'est gripsou, c'est pas possible.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec un explorateur, d'une certaine manière, Olivier de Kersauzon. Eh bien, nous allons parler maintenant d'une exposition sur Jack London qui commence, me dit-on, au mois de septembre et jusqu'au 8 janvier. Elle est conçue comme une invitation au voyage et à l'aventure, qui sont les symboles de la vie et de l'œuvre de l'écrivain Jack London. Elle propose de faire revivre l'un de ses paris les plus audacieux. C'est un voyage effectué sur son voilier, le Snark, à travers les îles du Pacifique Sud entre 1907 et 1909. Alors, on peut voir cette exposition à partir de septembre au musée d'arts africains, océaniens, amérindiens, le MAAOA, le MAAOA, en coproduction.
Ça parlait bien, amérindien.
C'est Michel Viot qui est co-commissaire de l'exposition, qui a d'ailleurs réalisé un docu-fiction Jack London, une aventure américaine en 2016, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Michel Viot.
Bonjour.
Bonjour. Alors, parlons de cette expédition. C'est au mois d'avril 1907, n'est-ce pas, qu'il embarque à bord du Snark.
Oui, tant bien que mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la croisière du Snark et... Jack London est un écrivain mondialement connu à l'époque,
oui.
Et il est au sommet de sa gloire, et il est un symbole de l'écrivain aventurier. Et c'est quelqu'un dont la vie inspire l'œuvre tout le temps, et qui, comme le dit une citation, avait voulu être un météore superbe et brûler sa vie, et qui d'ailleurs est mort prématurément, et qui se lance dans cette aventure qui était au départ un voyage de 7 ans. Mmh. Et il voulait faire le tour du monde, partout, remonter Liang-Tse-Kiang, jeter l'ancre au pied de Notre-Dame, en remontant la Seine, et faire tous les océans du monde. Finalement, cette aventure durera un an et demi, environ, parce que ça devra s'arrêter, si vous voulez, tragiquement, pour cause de maladie.
Oui.
Il va souffrir d'une maladie victime des rayons du soleil tropical dans les îles Salomon. Mmh.
Mais surtout, même son équipage, Michel Viot, n'était pas, c'était pas des grands pros de la navigation, visiblement.
Non, mais l'écrivain a eu, Jack London a eu vraiment envie pour cette aventure à la fois maritime, humaine et littéraire, parce qu'il voulait que ça lui inspire de nouveaux écrits, a eu envie d'abord de la partager avec son épouse, qui était sa partenaire en aventure, véritable, Charmian London, qui était une femme d'exception, très moderne pour l'époque, et il a recruté comme ça des gens dont les personnalités lui plaisaient, et puis qui étaient plutôt jeunes d'ailleurs, à part le premier capitaine qui était son entre guillemets beau-père, qui était l'oncle de Charmian, son épouse qui l'avait élevé, et qui était un petit peu un marin d'eau douce qui n'avait jamais été au-delà de la pêche.
Il rapporte donc, parce que ce qu'on montre dans l'exposition, c'est des œuvres photographiques, parce que c'était un fou de photos, et
absolument,
puis des choses qu'il a rapportées. On était moins regardants à l'époque sur la propriété des œuvres.
Hein, oui, on est en pleine période des collectes, si vous voulez, que ce soit pour des institutions muséales, des expéditions scientifiques ou des collectionneurs. On commence à s'intéresser à ce qu'on appellera plus tard les arts premiers. En tout cas, l'art océanien est absolument splendide, et lui va avoir à cœur, si vous voulez, à la même époque, il rêve de se construire une grande maison sur son ranch pour quand il reviendra, et d'y construire une salle du Snark, où il ramènerait comme ça tous les objets qu'il aurait collectés durant ce voyage. Et c'est vrai qu'à l'origine de l'exposition, moi, en faisant mes recherches pour un précédent livre et des films, j'avais découvert en Californie des œuvres qu'il avait ramenées et qui n'étaient pour la plupart absolument pas montrées au public.
Ah oui, donc là, voilà, ça va être vraiment passionnant de visiter cette exposition. J'en profite, Michel Viot, pour dire qu'il y a aussi Jack London, navigateur à la Criée, Jack London, écrivain, rétrospective à l'Alcazar. Tout ça, c'est à Marseille. Régate de pirogue polynésienne sur la plage du Prado, 8, 9 et 10 septembre. Et puis évidemment, eh bien, Jack London dans cette exposition que vous organisez au Mahoua.
Voilà. Si je me permets juste de rajouter une chose, oui. Ce qui est important, c'est que c'est pour les fans de Jack London, et ils sont nombreux, c'est un appel pour l'aventure et une ouverture vers sa littérature, mais surtout avec toutes les œuvres qui viennent maintenant de multiples sources, on a beaucoup travaillé avec le Mahoua, c'est une ouverture sur la diversité.
Très bien.
Du Pacifique.
Eh bien, merci en tout cas, merci beaucoup Michel Viotte d'avoir été en ligne avec nous. On retrouve dans un instant Éric Dussart pour le Zapping Télé.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure, Éric Dussart met la télé sur écoute.
Allô Éric, on commence avec une cash machine.
Et oui, on a appris il y a quelques jours les tarifs de la publicité dans Quotidien. Vous savez, l'émission d'Yann Barthès sur TMC. L'an dernier, avant que l'émission n'arrive, c'était environ 3000 euros pour les 30 secondes de pub. Maintenant, avec Yann Barthès, c'est entre 13 000 et 21 000 euros pour 30 secondes aussi. Autant dire que vous avez dû vous ruiner hier soir, Stéphane Bern, avec toute la pub que vous êtes faite dans cette émission.
Ah bon ? Ah
bah oui, en fait, il a fait comme ici sur RTL. Il a passé son temps à faire du placement de produits, notamment quand il a parlé d'Emmanuel Macron.
Parce que regardez, on voit les images quand il a inauguré le Collège Royal de Thiron-Gardet, qui entre nous ouvre au public demain. Voilà, 5 euros le tarif réduit, 8 euros plein tarif pour visiter le collège. Non, je le dis
en
passant.
Il perd pas le Nord, hein, depuis le début, il perd pas le Nord. Il aime quel type de télé, vous en avez discuté?
Écoutez, j'ai juste lu une interview où il dit que son émission préférée, c'est Secret d'Histoire.
Ça tombe bien. Jeudi soir, 20h50, la reine Margot.
Vous êtes incorrigible.
Bah, écoutez, on m'invite pour faire la promo de mes émissions.
Oui, d'accord, mais c'est nous qui payons la pub après. J'ai reçu la facture ce matin, 42 000 euros à cause de vous.
Oh, bah vous avez les moyens,
excusez-moi. Vous touchez d'RTL.
Alors, pour autant, ça, c'était sympa. Il nous a fait un petit clin d'œil gratuit pendant l'émission, Stéphane. Ah. Bon, enfin, il nous a fait. Ça s'adressait en fait spécifiquement à Patrice Carmouze, puisqu'il s'agissait d'une petite blague zoophile quand vous avez évoqué ce projet d'émission sur les animaux initialement prévu pour France 2.
Je sais pas, il paraît que les qualis étaient pas très bons pour eux. Voilà.
C'est quoi les
Et vous savez, on fait des pilotes, puis ensuite on les présente à un public choisi. Et le public choisi vous donne des notes. Ils m'ont adoré
même
dans
service,
la brocante.
Même au service public.
Mais oui, ils m'ont adoré dans la brocante, ils m'ont pas aimé dans les animaux. Enfin, dans les animaux, c'est une façon de parler. Avec les animaux.
Je serai à votre place, je rigolerai pas trop avec ça. Je vous rappelle que Patrice sort tout juste d'une semaine de prison. Hein, après ses propos sur notre antenne.
Il est gardé à vue, c'est très différent.
Donc attention. Hein. Bon, sinon, il y en a une autre qui a eu le droit à un petit signe d'amitié pendant votre interview dans Quotidien, Stéphane. Oh bah si, on est obligé. On est obligé de parler de votre grande copine, Carole Rousseau.
C'est vrai que vous vous êtes opposé à l'arrivée de Carole Rousseau sur le service public, genre c'est elle ou moi.
Ah non.
Sinon je fais un scandale, je m'en vais.
Mais non, mais d'abord tout s'est réglé avec elle. Elle a perdu le procès qu'elle m'a fait, donc j'ai aucun problème avec elle.
Ça, c'est bien. Vous savez qu'elle travaille sur cette chaîne.
Ah, je suis ravi.
Je suis ravi. Heureusement que vous n'êtes pas dentiste. Hein. Vous diriez à tous vos patients, mais non, vous n'aurez pas mal, je vous le jure. Allez, on va continuer à parler d'amour fou avec L'amour est dans le pré, cette fois sur M6. Et alors, le grand favori de cette année, je vous rappelle, il s'appelle Gégé.
Gégé n'a jamais vécu avec une femme. Il est aujourd'hui prêt à s'ouvrir à l'amour pour la toute première fois de sa vie.
C'est bizarre, c'est comment le grand amour aussi. C'est pareil, comme dans mon boulot, mais que mon père m'a jamais... J'ai fait tout ce que j'ai voulu, mais il m'a pas fait voir. Il m'a dit, tu montes dessus, puis tu la bourres.
La terre.
Voilà l'amour...
C'est pareil, tu lui montes dessus, puis tu la bourres.
Ouais, les bons conseils, hein, Karine Le Marchand. Faut pas s'étonner après que les mecs ils sautent directement sur les prétendantes, hein, si Karine les chauffe comme ça, évidemment. Bon, dans l'amour et dans le pré, l'heure est maintenant aux premières rencontres. Et alors, je crois qu'on a une candidate qui n'a pas trop bien compris le concept de l'émission. Elle, en fait, je pense qu'elle est persuadée de participer à Top Chef. C'est pour ça qu'elle a préparé autant de plats avant de partir chez Jean-Marc.
En fait, moi, j'ai préparé pour Jean-Marc une tarte au fromage blanc et des tartelettes au fromage blanc. Deux tartes salées, une tarte au lardon et une tarte au saumon. J'ai fait des petits sablés pour Jean-Marc. J'ai l'intention de le bichonner. Et même s'il y a quelqu'un d'autre, c'est pas gênant, moi ça me dérange pas. Hein. Elle a beaucoup d'atouts par rapport à moi, mais comment dire... J'ai plus de charme qu'elle. Elle va éjecter vite fait.
Oui, enfin, à mon avis, surtout le bouton du pantalon de Jean-Marc qui va être éjecté au plus vite. Il mange tout ce qu'elle lui a apporté. Hein.
Il
va
pas tenir. Il aime les
tartes. Faut qu'il aime les tartes. Faut qu'il soit très tarte, ouais. Dans tous les sens du terme, peut-être.
Il est mal.
elles aussi ont des problèmes de vêtements.
Bah oui, les candidates des reines du shopping, autre émission d'M6, où il y a une vraie championne cette semaine. Sa place, en fait, elle était plutôt dans des chiffres et des lettres, parce qu'elle est super forte en français. Par exemple, elle ne dit pas des imprimés, mais ceci.
J'ai un budget de 400 euros, et je dois être branchée avec des imprimeries en fleurs.
Imprimerie en fleurs.
On n'est pas en imprimerie, ma chérie. On ne va pas faire des invitations ici. Hein.
Ouais, non, son haut, on voit la limite, c'est ça, c'est pas possible. Par contre, elle met sur des pièces qu'il extravagantit, je sais pas si ça se dit.
Et on va dire que oui. Non.
Si je lâche la veste, on va voir mon ventre. Le body, il me bourdonne le ventre.
Il bourdonne le ventre. Alors, c'est quand t'as pas une taille de guêpe, t'es bourdonné. Ah. Et puis ça vous déprime un petit peu, quoi. Ah non, elle invente. C'est une vraie modeuse. Dans la famille, c'est presque cette expression, mais pas tout à fait ça quand même. On a aussi cette autre candidate qui, elle, a revisité à sa façon l'expression caverne d'Ali Baba.
Et vous voici déjà arrivé devant votre première boutique imposée qui propose de très jolis vêtements chics et décontractés comme vous aimez.
Pas mal.
C'est une jolie boutique. Ça m'inspire bien, moi.
Ça fait caserne à Bilibaba.
La fameuse caserne à Bilibaba.
La caserne.
Ouais, Bilibaba est, on vous rappelle, un pompier qui, naturellement, vit dans une caserne. C'est logique.
Et on termine avec un dernier Jean-Michel à peu près.
Ah bah oui, un troisième chez Moundir sur W9, car vous connaissez le dicton. Jamais deux sans trois.
C'est super, c'est parfait. Je pars en expédition avec les Bleus. On les a déjà battus une fois en expédition. Jamais 202. Jamais 202.
Ça, c'est sûr. J'ajouterais même jamais 303. Ouais. Ça peut marcher comme ça avec tous les filles.
Qui peut le plus, peut le plus.
Et qui peut le moins, peut le moins.
Là, vous extravagantisez. Hein,
ah bah oui, je sens bien que ça vous a un peu bourdonné.
Ça m'a bourdonné. J'aime bien l'expression. Oui, ça me bourdonne le ventre. Oui. Vous regardez pas toutes ces émissions.
Je ne crois pas. Non. Les heures passées pour récolter ces conneries, c'est normal. T'as dû en écouter des trucs médiocres, sans intérêt, tout ça.
Mais vous avez eu la tête qu'il a aussi. Mais il est payé très cher.
T'es devenu un de pute, toi. Hein.
Et il est tellement payé qu'on lui rajoute des heures le week-end, le samedi et le dimanche.
Pas sur ce sujet.
On refait la télé. On l'appelle le roi d'RTL. Merci Eric Dussard. On vous retrouve demain. On va retrouver nous dans un instant notre invité Olivier de Kersauzon et puis Régis Maillot qui va nous montrer la marque du maillot. Attention, coup de soleil. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Midi passé de 4 minutes sur RTL. Tout de suite, retrouvez à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Ils ont maquillé sans...
Patrice Carmoz est en train de commenter les actualités d'Adeline Courson. Merci Adeline Courson. Nous retrouvons maintenant...
Il faisait l'heure du crime.
Il nous expliquait l'affaire Grégory.
L'heure du crime, Patrice Carmoz.
L'heure du crime. On verra ça avec Jacques Pradel. Ouais. Mais nous sommes avec Olivier de Kersauzon pour son livre Promenade en bord de mer et étonnement heureux au Cherche Midi. Et aussi pour cet album Braise et au Mabro. Voilà, la Bretagne est mon pays. Il y a plein d'artistes qui sont réunis.
Et les textes, par exemple, d'Olivier.
Et vous commentez, vous avez enregistré votre voix.
Ouais. Oui, en général, c'est sa voix qu'on enregistre.
Oui, c'est mieux. C'est plus facile.
Si on faisait un petit effort.
Cachez ou alors on se fait doubler.
Mais... Voilà. Donc, on se fait doubler.
Cachez votre joie. Et donc, mais bon, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Ouais. D'abord parce qu'il y a tous les
reprises.
Il y a des reprises et puis des chants traditionnels bretons.
Hein, vous maîtrisez. Stéphane a peur de faire une boulette maintenant.
Oui, maintenant j'ai peur. Parce que c'est vrai, on peut plus rien dire. On a peur de déplaire aux Bretons, aux Corses, aux Alsaciens, aux Parisiens. Non, mais c'est vrai.
Les Parisiens ne disent rien. Bon.
Les Parisiens disent rien. Personne n'est vraiment parisien.
Non, ben non.
Il y a très peu de vrais Parisiens.
Il y a peu, heureusement.
Mais en fait, vous êtes plus heureux en mer que sur terre. Un peu comme l'albatros.
Ouais, n'exagérons pas non plus, mais non, j'aime bien être dans des endroits où il y a de la nature dense et où il y a le voisinage est restreint et où la vie animale est forte.
Ah voilà. Oui, c'est pas Paris donc. Hein.
Oui. Non, c'est pas trop.
Vous devriez faire le bonheur est dans le pré.
L'amour est dans le pré.
Ah oui, pardon, l'amour
vous
est dans le pré.
Vous aimez les tartes.
Ouais, c'est magnifique. Je trouve ça très émouvant. J'ai regardé avec mon chien l'autre jour. Et il avait l'œil humide.
Mais
c'est sympa aussi parce que c'est des histoires qui nous paraissent, je sais pas, parce qu'on a eu la chance de vivre différemment, assez improbables. Et en fait, c'est pour moi, c'est il y a plus d'aventures à regarder L'Amour est dans le Pré que Koh-Lanta. Tu vois, pour moi, L'Amour est dans le Pré, c'est beaucoup plus aventureux que Koh-Lanta.
Mais Koh-Lanta, on mange pas de tarte en plus, il n'y a rien à manger.
Il n'y a rien à manger.
C'est ça qui vole au secours de gens.
Très bien, on va retrouver dans un instant Régis Maillot, la marque du maillot vous attend.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes avec Muriel Kersauzon. Bon, c'est bien. Là, vous êtes dans un environnement qui, visiblement, vous amuse. Ça va.
Des stratégies de chasse, on parlait. Comment faire pour deux poulettes dans une soirée? Est-ce que c'est possible dans une... Vous aimez la chasse à la poulette hein, en même temps.
Très bien. Eh bien, on était toujours dans L'Amour et dans le Pré, évidemment. On retrouve tout de suite Régis Maillot, la marque du maillot.
La marque du maillot.
Olivier de Kersauzon, bonjour. Enfin, Irmat, c'est l'heure de l'apéro. Bien que natif du Massif central, je suis un peu breton sur les bords. Enfin, disons sur les bas-bords. Je viens de Nantes, Nahonnet pour les puristes. La cité des ducs de Bretagne, ville préférée de Stéphane Bern. Nantes, c'est quand même la seule localité de France où trône encore une statue de Louis XVI.
Exactement.
Alors, je reviendrai pas sur le débat d'appartenance de Nantes. Hein, par l'acheter, déjà. En tout cas, magnifique ce livre. La Bretagne, le breton, peuple fier, peuple indépendant. La Bretagne, c'est un des seuls endroits en France où on se sent vraiment en Bretagne. Voilà, on peut le dire.
Il n'y a pas de péage.
D'ailleurs, on peut parler de particularisme breton. Déjà, le climat. C'est vrai que ce n'est pas une légende, cette histoire de flotte. Moi, mon meilleur ami s'est installé dans le Finistère avec sa famille quand il avait 10 ans. La première fois qu'il a vu le soleil, c'était pour ses 14 ans, quand il est parti en vacances dans le Morbihan. En Bretagne, un kawé, c'est pas un vêtement de pluie, c'est un pyjama, quoi. Il faut le savoir. Non, je plaisante. C'est une année, je jouais mon spectacle en Bretagne. Il faisait un temps saoudien. C'était à Loudéac, donc un peu dans le centre. C'était au mois de novembre. Il faisait un temps. Et ben, les types m'ont accueilli en short et en tongs. Hein. Croyez-moi, un breton en tongs, tu te méfies, tu demandes un CV, une copie de la carte d'identité. Enfin, t'as les jetons. 25 degrés à l'ombre en Bretagne en novembre. C'est l'angoisse. Hein. Les types se sont excusés. On a mis la clim à fond histoire de se sentir couleur locale. Bref, je suis comme vous, cher Olivier, un amoureux de la Bretagne, et j'aimerais à ce titre qu'on arrête. Qu'on arrête de distiller des clichés éculés et malhonnêtes sur cette région ainsi que sur leurs habitants. Car contrairement, et là je voudrais être un peu sérieux à ce dont est intimement persuadé Stéphane Bern,
arrêtez avec moi,
qui nous le disait encore ce matin en ses 20 ans. Tu sais, Maillot, ce ne sont pas des gens comme nous, les Bretons.
Oh, arrêtez, mais c'est pas possible.
La Bretagne, c'est une région uniquement peuplée de rouquins consanguins alcooliques et cyclistes qui, pour survivre l'hiver, s'accouplent avec leurs cochons, vivent dans des terriers, se nourrissent à base de pommes de terre et forniquent avec des druides en écoutant du Dan Herbraz. Non, Stéphane Bern, non. Il suffit de ces concis.
Il n'écoute pas Dan Herbraz.
Voilà. Voilà. Il n'écoute plus Dan Herbraz. Voilà. Je pose le holà au racisme anti-breton. Alors, avant votre venue, du coup, on a dû faire sauter toutes ces idées reçues à Stéphane Bern. Déjà, on a rebaptisé toute l'équipe. Patrice Kermouz, Stéphane Blakovic, moi, Kevin Maillot, hein, et on a fait épiler Éric Dussard pour qu'il ressemble à la pointe du rat. Ensuite, Stéphane Bern s'est préparé pour recevoir. Au bureau, il a écouté du Trianon en boucle depuis 2 jours, et ce matin, il s'est mis en tête de s'initier aux instruments traditionnels. En revanche, comme on n'est pas équipé, c'est moi qui fais office de bignou. Faut savoir aider dans la vie. 2 jours qui passent en boucle des images du naufrage de l'Erika en pleurant. Question alimentation, il s'est mis au régime breton. Hier matin, petit-déj, il s'est envoyé 8 galettes saucisses, un quinaman enrichi au miel, et il a repris tellement de fois de travers de porc, j'ai cru qu'il avait décimé la moitié du cheptel porcin du Finistère. Et question picole, il s'est mis au diapason, le Stéphane. Hein. Rien qu'à l'apéro, il s'est envoyé 12 litres de cidre, il a exigé qu'on lui serve un demi-tonneau de chouchène, c'est dire qu'il n'est pas regardant. C'est vrai, le chouchène, c'est brutal. Hein.
Non, mais je me suis mis vraiment au cidre. À Rochefort-en-Terre, ils ont des bolets.
Et vous en avez ramené. D'ailleurs, le chouchène, c'est brutal. Pour en avaler, il faut avoir confiance en ses sphincters. Hein. Moi, la dernière fois que j'ai pris une cuite au chouchène, j'ai perdu 2 molaires et j'ai dû m'acheter un labrador. Je ne voyais plus rien. Ensuite, notre Stéphane a voulu qu'on aille humer l'air marin du Grand Ouest. Bon, comme on n'avait pas le temps, on est allé du côté de Montparnasse. Vous connaissez, dans un pub breton, le Tibédef. On s'est fait repérer dès l'entrée du bar. Faut dire, il était looké. Le Stéphane, vous connaissez Bécassine. Et bien là, c'était son cousin.
C'est ma cousine.
Bern Cassine, je vous fais le descriptif. sur la tête une jolie coiffe bretonne. On aurait dit Mickey Mouse en visite au parc Astérix. Un ciré jaune Guy Cotten en latex et un vieux short cycliste Bernard Hinault la vie claire. Bon, c'était pas sa taille, les joyaux de la couronne dépassés. Et pour couronner le tout, un t-shirt « Braise me, I'm famous ». Le temps qu'on aille lui chercher un bol de cidre au comptoir pour le réchauffer, il avait fait déjà 3 clients. Et une touche, une bretonne, enfin une bretonne, vous voyez du Guéclin, et bien sa sœur. Gwenola, 87 ans, la vétérante du trottoir de Montparnasse. Poilu comme un druide, une odeur de retour de pêche. Soi-disant qu'il lui trouvait un air de ressemblance avec la reine Elisabeth. Bon, du coup, il l'a galoché comme un vieux teckel toute la soirée. Un vrai menhir, le Stéphane. La Gwenola n'avait pas connu ça depuis la grande Armada. Ce matin, on a fait un test de grotesse positif. Alors, je vous parle, Gwenola est chez Pronupsia pour choisir le berceau de l'héritier. Décidément, on aime vraiment trop la Bretagne ici.
Oui, oui, c'est
à la bonne heure.
Merci Régis Maillot et on embrasse tous nos amis bretons.
Évidemment, évidemment, évidemment.
Eh oui, on les adore, les bretons.
Oui, que Dante a perdu les trois quarts, c'est ce qu'il vient de dire.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et toujours avec Olivier de Kersauzon, nous posons le. Eh bien, c'est le ou maintenant. Qu'est-ce qui vous inspire le plus, Olivier de Kersauzon, le ciel ou la mer ?
La mer, quoi.
La mer, ouais.
Mmh. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la mer et assez peu de temps dans le ciel.
Oui.
Le ciel. Mais j'aurais bien aimé être un piaf. Parfois, quand tu les vois voler, tu dis, ça doit être quand même génial. Tu décolles.
Multicoque ou monocoque ?
Multicoque.
Multicoque.
Oui, non, parce que. Non, mais pour des raisons simples, c'est que. Le multicoque a vraiment été mis au point dans les années 70 et les 40 dernières années, on a fait que ça. On a fait naviguer des multicoques où c'était pas pensable de les faire naviguer. Bon, l'intéressant, c'est que un bateau qui va vite, c'est tellement de l'intelligence appliquée que c'est remarquable. Donc c'est pas un monocoque aujourd'hui, c'est un peu pâteau, c'est un peu lourd. Alors, ce qu'on arrive à faire au multicoque, je sais pas si vous avez vu sur la coupe, mais ça cartonne. C'est 40 nœuds, 80 km/h sur la bouée. C'est hyper élégant. Puis c'est de l'intelligence. Les bateaux,
moi, c'est la technologie aussi.
Ouais, dans la compétition, il y a toujours eu de la technologie. C'est que il y avait de la technologie, même dans les monocoques de la Coupe América d'il y a 40 ans, il y avait de la technologie. Seulement, elle n'a pas été.
Et là, elle est géniale.
C'est un vrai sport. Ouais. C'est violent. Et puis c'est logique, parce que la Coupe América historiquement, c'était les bateaux les plus rapides de son époque, et donc il faut que ça reste. Les bateaux les plus rapides
de leur époque, bien sûr. Alors maintenant, des questions plus compliquées. Vous préférez rester sur terre ou une croisière sur un paquebot ?
J'aime bien les paquebots, moi.
Ah oui ?
Ah oui, j'adore. Moi.
Et justement, la course qu'il y a en ce moment entre le Queen Mary 2.
Non,
et...
c'est de la couille complète, ça n'a aucun sens. Mais
non, c'est parce que vous allez adorer.
Sur le plan météorologique, les bateaux n'ont aucune chance d'aller plus vite. Voilà, c'est tout. Donc c'est de la com bidon, quoi.
C'est le Queen Mary.
Et les paquebots, c'est bien. C'est bien parce que ça fait partie de ce que j'ai pu voir parfois d'un partage sympa. Il y a des gens qui vont en croisière, ils connaissent pas, ils sont au milieu de l'Atlantique ou au milieu du Pacifique, et tout d'un coup ils découvrent ce monde, et tu découvres chez ces gens-là, eux se découvrent de l'enthousiasme et des moments heureux. Donc c'est ça qui est bien. C'est pas vulgaire, le paquebot.
Non.
Après les mecs disent c'est vrai. Il y a des catégories de paquebots.
Vous écrivez dessus d'ailleurs.
Moins chic que d'autres, mais je trouve que c'est bien. Et puis, de toute façon, il ne faut pas mépriser quand les gens prennent du plaisir. Moi, je pars du principe qu'il n'y a rien de moche si les gens sont contents.
Voilà, c'est une bonne philosophie.
Et puis avec un peu de bol, sur une croisière, il y a Stéphane Bern qui fait une conférence.
Et qui fait une conférence.
Mais ça, j'adorerais venir me foutre de sa gueule.
Pour la prochaine, c'est la fin de l'année prochaine. Flotter sans grâce ou couler en beauté ?
Je ne peux pas répondre à ça.
Non. Dernière, fidélité ou une femme dans chaque port ?
Fidélité, bien sûr.
Bien sûr.
Ouais, bravo.
Comment on peut se poser la question ?
Mais oui, c'est incroyable. Comment un marin, c'est pas possible.
Ah, comment on peut y répondre ?
C'est un port dans chaque femme. Hein.
Il y a un port dans chaque homme. Et surtout, Patrice peut en répondre.
Oula, c'est vos histoires.
Ça recommence.
Patrice Carmoz est en quiz musical dans un instant.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmoz.
Alors, je rappelle les règles. Eh bien, nous jouons pour faire gagner aux auditeurs, oui, aux auditrices évidemment, une escapade de 3 jours à l'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate Provence à Bandol. Allez voir sur dolcefregate.com. www.blackoblack.fr. Et pour cela, eh bien, notre ami Olivier
de Kersauzon... Moi, je propose que Blacko joue avec vous.
Stéphane Blakowski, Olivier de Kersauzon et moi, nous jouons pour Roselyne. Et le reste du monde, c'est-à-dire Eric et Régis, jouent pour Alain.
Alain. Et mais Olivier peut participer.
Le thème c'est les
chansons sur la région. Voilà.
Les régions. Les
sauf la Bretagne, évidemment. Alors, il faut deviner qui chante. Hein. On commence par ça.
Strasbourg, Paris, ils sont tous partis. Les gris, les gros, les méchants.
On l'a.
Le problème, ils l'ont à chaque fois.
On l'a.
Oui. Vous devriez l'avoir.
On peut jouer.
Oui, il devrait l'avoir, Stéphane.
On peut c'est Souchon, vous.
Souchon,
un des deux.
Ouais.
Souchon.
Eh non, c'est vous.
Vous faites pas une différence encore entre Souchon et Jouzy après toutes ces années.
C'est surtout pas du tout la même voix, mais bon.
Donc 0-0.
Ah ouais. C'est quoi la région du coup là?
Strasbourg.
Strasbourg. Non, vous avez dit les régions.
La région et les villes. Vous êtes région et les villes.
Il faut faire attention parce que c'est le Grand Est.
Deuxième extrait, c'est pour le reste du monde, ça.
Voici le capitaine.
Oh, facile,
le garçon. Il y a deux poids de mesure. Là.
L'Occitanie. C'est Occitanie maintenant, c'est ça?
Alors, vous dites, c'était pas si compliqué. Non.
C'était pas compliqué, là.
Non.
Bon, ben, ça vous allez voir.
Vous trouvez pas que c'est bizarre?
Ça va être facile.
Comme nom de région Occitanie.
Pierre Bachelet.
Voilà.
Et Coron.
Un partout. On a Joël Goron qui arrive, c'est normal?
Non, les Corons.
Les Gorons.
Dès qu'elle entend cette chanson,
elle arrive.
La minute.
Reste du monde, ça.
Blanchard, Gérard Blanchard.
Ouais. Rock Amadour. Ouais, pareil, on est toujours un petit peu au seul. Là.
Quel concours est pour Village Petit.
Voilà.
Une petite anecdote au sujet de Rock Amadour, non?
C'était très joli, c'est très beau, Rock Amadour. C'est perché sur la colline.
Ils n'ont pas gagné. Parce que c'est quand même magnifique. Hein.
C'est magnifique, Rock Amadour.
Parce que
hein.
La concurrence est rude.
Mais Stéphane, quand il arrive à Rock Amadour.
Bon, Blacko,
l'architecte était bon.
Il faut se concentrer là.
Raphaël.
Ouais. Sur l'album.
Raphaël qui est dans l'album.
C'est quelle région?
C'est Versailles.
Versailles.
Ouais. C'est les villes et les régions. Hein.
De partout.
Il n'est pas super ce blind test. On avait fait des beaucoup mieux que ça.
Et celle-là,
Oui, la fille de l'Est. Chanson de Barbe Livien qui est aussi dans l'album.
Qui est aussi dans l'album, absolument.
Patricia.
On a combien là?
On en a 3-2, c'est le reste du monde 3, qui est 2,
devant. Le reste du monde, si vous pouvez égaliser peut-être avec ça, c'est pas facile.
Depuis que tu creuses la terre, on ne sait pour quelle raison. Depuis que tu baisses la tête sous un ciel couvert, depuis que tu.
Ça pourrait être Claire Kem, ça pourrait être.
Malizé.
Patrice
Nati.
Julie Nati. Il tend ses feuilles carrément.
Ça pourrait.
Non, mais
c'est moche. Je voulais faire remonter.
C'est quelle ville?
Oui, c'est gentil. Trois partout.
On peut connaître le nom de la ville.
À l'ouest.
À l'ouest.
C'est à l'ouest. À vous, le reste du monde.
Ah oui, c'est le Normand?
Le Normand.
Et c'est quoi?
C'est Gérard Le Normand, il part de la Normandie, vraisemblablement.
Non, pas tout à fait. C'est la région parisienne.
Ah bon?
Je me rends mieux compte maintenant que je ne suis plus dans leur équipe à quel point ils sont forts.
Montfort-l'Amaury.
Vous l'avez déjà fait, servi celle-là.
Alors, c'est une dernière et après on départage.
Allez. Je prendrai ma guitare avec moi.
Cabral.
Bah oui. La Haute-Savoie.
La dame 4-4. Voilà.
On départage.
J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie.
On départage, c'est sur le karaoké.
Après, c'est au plus rapide.
Attendez.
Le plus rapide.
Nino Ferrer.
Trop rapide.
C'est qui?
C'est Eric.
Le Sud.
Non, mais pour la rapidité, c'est Eric.
Nino Ferrer.
Ça a toujours été.
Et donc c'est Alain qui remporte le séjour. Merci beaucoup, Olivier de Kersauzon. Je rappelle que. Non, évidemment, on peut vous retrouver aux grosses têtes chez notre ami Laurent Ruquier l'après-midi. Mais surtout, vous publiez Promenades en bord de mer et étonnement heureux. Au Cherche-Midi, c'est une réédition après 100 000 exemplaires. C'est le livre à emporter en vacances cet été.
Merci.
Et puis avec l'album qui va avec, si je puis dire. Braise et Oumabro, La Bretagne et Mon Pays. En tout cas, c'est un projet original avec plein d'artistes sympathiques et la voix d'Olivier de Kersauzon. Demain, nous serons avec Alice Paul et Grégory Montel dans... Pourquoi vous avez... Il y a un bruit qui est parti, là, c'est un éternuement. Très bien.
Ouais. C'est peut-être des infos qui éternuent.
Voilà. Oui. Ouais.
Merci à tous d'avoir suivi. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.